Je lis le 8e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 8. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où la nécessité, pour lui aussi, d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. La discussion sur les deux alliances continue, et sur la valeur figurative de ce que l'auteur aux Hébreux appelle l'ancienne dans les chapitres qui suivent, mais enfin je ne lirai pas plus loin, et j'aborde maintenant le sujet annoncé qui est celui de l'alliance. Nous avons dans nos trois exposés d'hier et de ce matin commencé par le commencement, c'est-à-dire par les principes, les méthodes, les fondements, et du coup nous avons donné l'avantage au point de vue formel. Nous avons vu ce qu'est l'écriture, mais assez peu ce qui est dans l'écriture. Alors, quelques heures ne suffiraient pas pour exposer en ordre le contenu de l'Écriture, qui est finalement toute la doctrine que nous voulons essayer de construire. Et je ne vais pas essayer de le faire dans cette quatrième session du week-end. Mais il y a encore une recherche préliminaire qu'on peut faire et qui concerne déjà le contenu. C'est la recherche d'un thème clé, d'une catégorie particulièrement utile pour disposer les données et faire apparaître leur unité dans leur diversité. Alors quand on cherche, il y en a plusieurs qui se présentent. Certains ont choisi le thème du royaume de Dieu, d'autres la Père, loi, évangile, d'autres un concept comme celui de la paternité de Dieu, d'autres ont pris comme catégorie clé la notion de dispensation. C'est, me semble-t-il, tout à fait légitime que de choisir l'un de ces thèmes que je viens d'évoquer. Il y a plusieurs manières de regrouper d'une manière significative et juste les données de la Bible. Il n'y a pas nécessairement une seule façon de les arranger. Mais celui qui me paraît malgré tout le plus satisfaisant, celui qui permet d'obtenir une vision d'ensemble, où tout se retrouve, semble-t-il, à peu près bien en lumière, et avec les relations entre les éléments bien clarifiées, c'est le thème de l'alliance. Il connaît, comme concept clé, un regain de popularité depuis quelques années, depuis la découverte par l'archéologie des traités d'alliance hittites entre souverains et vassaux, car on a réussi à discerner de fortes similarités entre les textes d'alliance de l'Ancien Testament, entre Dieu et son peuple, et ces traités
entre souverain et petit prince dépendant, population soumise dans le Moyen-Orient de l'Antiquité. Certes, c'est une originalité entière de la révélation biblique à Israël que Dieu entre dans une alliance avec son peuple. Les dieux des autres nations ne sont pas présentés comme faisant alliance avec elles. Mais il reste que cette découverte de tablettes permettant de définir la forme des traités d'alliance de l'époque a suscité de nouvelles études sur la notion d'alliance. Il y a un théologien évangélique dont l'œuvre est très enrichissante aux États-Unis, il s'appelle Meredith Klein, qui traite pratiquement de façon systématique de toute la Bible comme d'un traité d'alliance, montrant que tout le reste des textes peuvent être considérés comme un développement de ce qui est impliqué déjà dans les textes d'alliance eux-mêmes, dans le Pentateuch, le texte de l'Exode en particulier. Et M. Courtial a rendu compte en partie de ses travaux de Meredith Klein dans un article d'Ictus il y a quelque temps, l'écriture comme traité d'alliance. Je vous renvoie à cet article si vous voulez fouiller un peu plus la question. Mais déjà avant ces découvertes récentes, c'était le point de vue privilégié dans la tradition de la théologie réformée que de parler de l'alliance. Cette théologie a reçu comme nom théologie de l'alliance depuis déjà au moins le XVIIe siècle, et il y a des amorces au XVIe. Et la catégorie d'alliance était importante chez les pères de l'Église aussi. Et la meilleure preuve, et en même temps le meilleur indice de l'importance de notre sujet de cet après-midi, c'est que les deux parties de la Bible, dont nous avons vu ensemble l'unité tout à l'heure, l'ancienne et la nouvelle, sont appelées du nom d'alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. En effet, la traduction testament a quelque chose d'un peu trompeur. Le mot traduit testament, c'est le mot qui signifie aussi alliance et qui est le mot traduit alliance couramment dans le Nouveau Testament, ou dans l'Ancien Testament, version grecque. Donc lorsque nous disons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous pourrions aussi bien dire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, le document correspondant à l'Ancienne Alliance et à la Nouvelle Alliance. Ce fait à lui seul, je crois, atteste l'importance de la catégorie. Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, ça veut dire un pluriel. Et tout de suite un problème surgit qui est un peu comparable à celui que j'ai évoqué ce matin. Une alliance ou plusieurs alliances? Il est question, dans divers passages de l'Écriture, d'une alliance éternelle, plus de 12 fois dans l'Ancien Testament, une fois dans le Nouveau, et ce n'est pas seulement en vue de l'alliance à venir que dans l'Ancien Testament l'expression est employée, une alliance qui serait éternelle du côté du futur. Mais c'est aussi à propos de certaines alliances faites dans le temps ancien. Ésaïe 24, verset 5, semble évoquer une alliance très ancienne. Est-ce que c'est celle de Moïse ou même déjà une alliance faite avant? Ce pourrait bien être déjà celle faite avec Noé, étant donné le contexte qui évoque le déluge. 2 Samuel 23, 5 emploie l'expression pour l'alliance avec David. Donc, le problème se pose. S'il y a une alliance éternelle, il peut y en avoir qu'une. Puis d'autre part, même si l'on considère seulement ce qui a été conclu par Dieu avec l'Israël selon la chair, et en tant que tel, il n'y a pas seulement eu une alliance, d'après le langage de Paul au début de l'Épître aux Romains au chapitre 9. Car il dit des Israélites selon la chair, qu'à eux sont les alliances. Alors il ne peut pas s'agir de la nouvelle alliance, puisque précisément il s'agit, et la suite de son développement le montre, d'une alliance qui n'est pas pour ceux qui sont Israélites seulement selon la chair, mais ceux qui suivent aussi Abraham dans la foi, ceux qui sont le véritable Israël de l'esprit au sein de l'Israël selon la chair. Alors, lorsqu'il emploie le pluriel, les alliances, il introduit donc une certaine diversité à l'intérieur de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Vous voyez la complexité du problème. Alors, je voudrais essayer de la débrouiller un peu pour vous cet après-midi. Mais avant de suggérer la solution qui me paraît juste, il faut quand même que nous précisions la notion elle-même d'alliance, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait plusieurs. Le mot hébreu, qui est le mot brit, je pense que vous pouvez aussi bien le noter, signifie un contrat, un pacte qui lie deux parties. La traduction d'alliance est une traduction tout à fait correcte. Le terme s'emploie pour toutes sortes de contrats entre les hommes, comme pour la grande alliance entre Dieu et son peuple. L'expression la plus courante pour conclure une alliance, c'est couper, couper le brit. Il semble que l'usage du verbe couper en, dans cette connexion soit lié à la coutume d'offrir un sacrifice au moment de la conclusion de l'alliance, de le couper en deux et de faire passer les contractants entre les deux moitiés de la victime. Semble-t-il une façon de solenniser l'engagement et d'avertir celui qui trahirait ce qu'il a promis. En coupant, par exemple, ce bœuf en deux, les deux contractants proclament qu'ainsi Dieu fasse à celui de nous deux qui serait infidèle à la foi jurée. C'est sans doute à cela que remonte l'usage de ce verbe couper à propos de l'alliance. L'alliance est entre deux contractants. Cependant, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de l'alliance que Dieu institue, il n'y a pas de symétrie. L'alliance est commandée par Dieu. Le verbe commander est utilisé, par exemple, au psaume 111, verset 9. Elle n'est pas négociée entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas report dans la relation entre Dieu et l'homme de ce qui se passe lorsque deux contractants humains font affaire ensemble. L'alliance de Dieu est un effet de sa grâce souveraine, et ce n'est pas à l'homme d'en discuter les termes. Ça est assez clair dans l'ensemble du texte. Et c'est pourquoi, certainement, les traducteurs grecs de l'Ancien Testament, ou plutôt les traducteurs israélites qui ont traduit en grec l'Ancien Testament, parce que c'était devenu leur langue quotidienne, n'ont pas choisi le mot usuel pour les contrats en grec. Ils n'ont pas choisi le mot sunseke, qui correspond très bien par la construction à notre mot contrat. Mais ils ont choisi un terme voisin dont le préfixe est différent, diaseke. Ils se sont sentis gênés devant le mot sunseke parce qu'il suggérait trop avec son préfixe sun, correspondant au cum, l'atteinte, pas dans le contrat. Ils se sont sentis gênés parce que ce préfixe suggérait trop une sorte d'égalité des deux contractants, de Dieu et de l'homme. Ils ont perçu que ça ne pouvait pas s'accorder avec tout le climat de l'usage du terme dans l'Ancien Testament. Alors ils ont choisi un autre mot, donc le mot diaseke, qui s'employait ordinairement pour les testaments. Et vous avez là l'explication de notre usage du mot testament en français, qui est très peu compréhensible pour le grand public autour de nous, c'est pas pour la première partie de la Bible et pour la seconde. Ils ont choisi le mot diaseke pour traduire brit. Et au fond, nous pouvons reconnaître qu'un testament, c'est une sorte de contrat, mais précisément un contrat dissymétrique. C'est un document juridique, du même type que les autres documents qui peuvent lier deux parties, et au fond, il y a deux parties dans un testament. Mais un seul décide. C'est celui qui va léguer, choisir l'exécuteur testamentaire peut-être, etc. Mais de toute façon, il décide souverainement, dans le cadre de la loi française, bien entendu. Si nous sommes en France, mais vous saisissez ce que je veux dire, dissymétrie essentielle. Alors ils ont choisi ce mot-là, et dans le Nouveau Testament apparaît une ou deux fois la conscience qu'avaient les auteurs du Nouveau Testament, qui ont repris le terme des traducteurs judéo-grecs, la conscience qu'ils avaient que, du double sens, le sens courant de testament, et puis le sens biblique d'alliance dissymétrique, souveraine, accordée par Dieu à son peuple. Et dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, je ne l'ai pas lu, mais dans celui qui fait la juste suite à ce que nous avons lu il y a un instant, l'auteur joue sur ce point et dit un testament ne devient opérant qu'à partir de la mort de celui qui a testé. et il fallait que la mort intervienne pour que l'alliance entre vraiment en vigueur, l'alliance de la grâce de Dieu. Je paraphrase bien sûr, mais vous trouvez cela dans le développement du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Et il est possible que Paul aussi joue sur le terme de la même manière au chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Le père Congar a proposé d'utiliser au lieu de testament ou d'alliance le terme de disposition pour rendre le mot biblique. Ce mot aurait certains avantages. Il suggérerait ce caractère bien ordonné des choses que Dieu a fixées de sa propre autorité. Il suggérerait cette dissymétrie que le mot alliance en français n'implique pas de lui-même. Mais alors il aurait le désavantage de ne pas marquer qu'il s'agit d'un lien qui unit deux contractants qui sont désormais des alliés. Cela fait bien partie du langage biblique aussi. Dieu se lie librement et souverainement, mais il se lie aussi. Il entre dans l'alliance, et lorsqu'il a conclu l'alliance avec Abraham, d'ailleurs, c'est extrêmement frappant, il est passé lui-même entre les animaux découpés. Il a lui-même coupé l'alliance en faisant comme les hommes font lorsqu'ils célèbrent le sacrifice solennel de la conclusion de l'alliance. Il s'est mis, en quelque sorte, librement sous les obligations de l'alliance. Et le mot de disposition ne suffirait pas à le suggérer. L'alliance établit une co-appartenance. La formule clé, c'est « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu » à propos de l'alliance avec la nation d'Israël dans l'Ancien Testament. Dieu devient le Dieu de ce peuple, il lui appartient dans ce sens-là, et ce peuple devient la propriété exclusive et spéciale de l'Éternel. Vous avez un développement de ce qu'implique être la propriété exclusive de l'Éternel. Au moment de la grande conclusion de l'alliance au Sinaï, dans le livre de l'Exode au chapitre 19, je vais lire le texte parce que c'est un texte clé pour toute la pensée de l'Ancien Testament. Dieu donc, au moment de conclure cette alliance, il y aura le noyau de l'expression de sa volonté dans les 10 commandements au chapitre suivant. Dieu dit, au verset 4, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Donc ce n'est pas que Dieu n'ait pas un droit de maître sur tous les autres peuples aussi. Mais le lien d'alliance est un lien spécifique. « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ces deux expressions désignant le caractère particulier de la propriété de l'Éternel. Saint, c'est ce qui est mis à part pour lui appartenir. Et un peuple de sacrificateurs ou de prêtres, ça évoque sans doute aussi d'abord ce statut d'appartenance. Les sacrificateurs ou les prêtres étaient parmi les hommes ceux qui pouvaient s'approcher immédiatement de la résidence du Dieu Saint et qui lui appartenaient plus spécialement. Alors le peuple d'Israël est par rapport aux autres peuples un royaume de sacrificateurs parce qu'il lui appartient tout spécialement. Une alliance donc qui établit une telle co-appartenance peut aussi intervenir pour des individus ou pour une lignée particulière. Dans le cas de l'alliance avec la famille de David, avec David et ses descendants, en 2 Samuel 7, nous avons un lien parallèle à « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu », c'est « Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père ». Même réciprocité asymétrique, mais cette fois rapportée aux rois qui sont en alliance particulière selon ce que Dieu a institué dans sa relation avec David, avec Dieu. Alors une alliance se caractérise d'abord par des promesses de Dieu, des dons de sa faveur. Je crois que c'est le premier point que l'on peut observer. Dans toutes ces alliances, Dieu donne et promet de donner. Il est le souverain qui, comme tel empereur hittite, accorde un domaine à son vassal, lui reconnaît tel droit ou telle possibilité. Dieu est celui qui commence par donner. C'est important pour la compréhension de tous les commandements. Il représente toujours une démarche seconde. Dieu commence par répandre sur les hommes les effets de sa bonté, et les commandements s'inscrivent donc sur le fond de cette générosité première. Ensuite, alors, il y a les exigences, il y a les promesses, et puis il y a les exigences de Dieu, les prescriptions, ce qu'il exige de ses alliés. Alors, dans le cas de l'alliance au Sinaï, par exemple, les 10 commandements représentent le noyau, pas le tout, mais le noyau, les éléments essentiels de l'expression de la volonté de Dieu, qui s'est fait connaître comme le Dieu libérateur d'Israël. Très souvent, je n'ose pas dire absolument toujours, mais très souvent, il y a des signes de l'alliance qui lui sont associés. Je ne pense pas pour ma part que ces signes jouent toujours exactement le même rôle dans les diverses alliances que l'on peut considérer. Ils ont un rôle pédagogique à coup sûr, peut-être un autre rôle aussi, c'est à creuser cela. Il y a l'arc-en-ciel au moment de l'alliance avec Noé, qui va rappeler de manière perpétuelle que la lumière de la grâce traverse les nuages du jugement, que Dieu est un Dieu qui ne précipitera pas un nouveau déluge d'eau, en tout cas, sur la terre. Dans le cas d'Abraham, c'est la circoncision qui est le signe de l'alliance et qui est appelée comme ça, qui marquera dans la chair de chacun des hommes qui se trouvent compris dans cette alliance, qu'il est voué à l'Éternel. Dans le cas de l'alliance sinaïtique, alors, il y a tout un système assez compliqué, mais le sabbat semble avoir été tout spécialement mentionné comme signe de l'alliance. Il est repris comme tel, en particulier dans le livre d'Ézéchiel. Dans le cas de l'alliance davidique, dont j'ai parlé, il ne me semble pas qu'il y ait de signe particulier qui soit mentionné. Je n'en vois pas comme ça, a priori. Dans le cas de la nouvelle alliance, plusieurs théologiens, mais que ce ne soit pas dit en clair dans le texte du Nouveau Testament même, pensent que le baptême et la scène, le repas du Seigneur, sont aussi des signes associés, signes de l'alliance. Un point encore intéressant à propos de l'alliance, c'est la fréquence de l'illustration par le mariage. Les alliances que Dieu conclut, et spécialement l'alliance avec le peuple d'Israël et l'alliance avec le peuple nouveau de la nouvelle alliance, sont comparées à un mariage dont l'Éternel est l'époux. Le mariage, c'est l'alliance par excellence dans les relations terrestres. Il est appelé alliance, au chapitre 2 des Proverbes, au chapitre 2 de Malachie. Et c'est ce qui sert d'image pour l'alliance de Dieu avec son peuple. Je fais encore une remarque à propos de ces ingrédients de l'alliance. Il est frappant que lors de la conclusion de l'alliance, qui est le plus fortement mise en vedette dans l'Ancien Testament, l'alliance sinaïtique, une aspersion de sang ait eu lieu, et que ce sang ait été appelé le sang de l'alliance. C'est pourquoi on a le droit d'insister là-dessus. Il y a cette expression en Exode 24, qui est particulièrement frappante. Exode 24, donc, c'est un peu la fin du grand développement qui commence en Exode 19. Les anciens d'Israël, avec Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, vont se trouver engagés dans une cérémonie plus solennelle de conclusion de l'alliance. Et au verset 6 et 7, en présence du peuple, nous avons un rite qui est accompli. Moïse prit la moitié du sang de taureau offert en sacrifice, qu'il mit dans des bassines, répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance, le lut au peuple, et dit : nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant : voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. La chose est frappante dans ce chapitre, et allusion y est faite dans le Nouveau Testament. Ce passage particulier d'Exode 24 est commenté dans l'Épître aux Hébreux, à la suite toujours du passage que nous avons lu, et c'est à lui aussi sans doute que Jésus-Christ fait allusion lorsqu'il parle de son sang comme du sang de l'Alliance au moment où il institue la scène, donc, et qu'il prend la coupe. Il dit « Ceci est la nouvelle Alliance en mon sang, le sang de l'Alliance. » C'est une remarque qui, je pense, s'éclairera par les explications que j'essaierai de donner dans quelques instants, mais je fais remarquer dès maintenant la place donc du sang dans la conclusion de cette alliance particulièrement importante, comme dans la nouvelle alliance. Alors, un mot de réflexion, faisons un pas pour prendre un peu de recul et réfléchir sur l'importance du thème de l'alliance en général. Je crois qu'il est éloquent que la Bible ait donné à la notion d'alliance une telle place. Cela correspond à sa volonté d'établir entre Dieu et l'homme une union qui demeure différenciée et en même temps dissymétrique dans la dépendance. On pourrait dire que toute la mentalité propre à la Bible, la vision de Dieu et de l'homme propre à la Bible, est déjà là dans ce choix de l'alliance. C'est typique justement de la pensée biblique. L'homme n'est pas appelé à se perdre dans l'être ou le néant, un quelconque nirvana. Il n'est pas appelé à se transformer en Dieu. La différence doit subsister comme dans une alliance entre les divers partenaires. Et j'aime à dire, c'est une alliance, ce n'est pas un alliage entre humanité et divinité, une alliance. Et en même temps, cette distinction étant toujours bien marquée par la notion même de l'alliance, ce n'est pas une alliance entre deux égaux qui négocient, ce ne sont pas deux puissances autonomes qui se rencontrent pour établir entre elles quelques liens. Tout vient de Dieu. C'est le testament de Dieu. C'est lui qui dispose souverainement de toutes choses. Voilà la structure typique de la réalité selon la Bible. Un Dieu et une créature qui demeurent distinctes, mais une totale dépendance. On pourrait aussi évoquer en même temps la place du juridique dans la pensée biblique, qui est très éloquente, alors qu'elle déplaît à beaucoup de nos contemporains. C'est une catégorie juridique que celle de l'alliance, et elle a une place tout à fait centrale. Ces choses, donc, passées en revue, essayons maintenant de voir quelles sont les articulations entre les alliances, s'il y en a plusieurs, dans quel sens on pourrait peut-être dire qu'il n'y en a finalement qu'une, dont les autres sont des renouvellements ou des réaménagements. Il y a d'assez nombreuses controverses parmi chrétiens évangéliques, même sur un tel sujet. Donc ce que je vais vous dire ne représente pas une chose tellement assurée que vous en écarter serait nécessairement suspect ou matière à hésitation particulière. Je pense avoir bien travaillé et me tenir dans une tradition évangélique qui est solide et stable à ce sujet, mais ce que je vous dis reste quand même la proposition de certains et n'est pas admis de tous. D'autre part, je ne vais pas, faute de temps, et je l'avais prévu, hein, ce n'est pas que j'abrège maintenant, mais je ne vais pas essayer de dérouler toutes les étapes de la preuve, essayer de vous montrer comment j'arrive aux conclusions auxquelles j'aboutis. Cela, vous ne le trouverez pas dans le cours sur les prolégomènes que j'ai cité ce matin, parce que le sujet est différent, mais vous le trouverez dans un cours qui doit paraître dans la même série. Bon, je n'ai pas encore rédigé, donc ce n'est pas encore tout fait, mais c'est ce qui est sur mon agenda comme une priorité de ces prochaines semaines et prochains mois. Donc vous aurez cela dans le cours sur le péché et la rédemption, si vous, bien sûr, si vous désirez chercher mes preuves et le plus de développement. Alors, j'en arrive aux conclusions. Je crois que ce qui est au départ, c'est une intention divine, mue par l'amour gracieux du Seigneur, de co-appartenance. On peut dire qu'il y a au départ une volonté d'alliance de la part de Dieu, qui est une expression de son amour. Et dans la mesure où c'est cette unique volonté qui sous-tend toutes les dispositions qu'il prend, on peut dire en un sens qu'il y a unité entre toutes les alliances et même, à la limite, une seule alliance. Et cette intention de co-appartenance, de lien communiel différencié entre Dieu et les hommes, aboutit à l'alliance éternelle conclue en Jésus-Christ, qui subsistera d'éternité en éternité. La vision finale de l'Apocalypse, Apocalypse 21 et 22, nous décrit cet état d'alliance achevé que Dieu est parvenu à établir par tout ce qu'il a accompli dans l'histoire sainte. C'est, je pense, un point que l'on ne peut pas contester. Cette volonté qui est là dès avant la fondation du monde et qui est pleinement satisfaite dans ce que nous décrit la fin de l'Apocalypse. Cette dualité, cependant, traverse la réalisation de ce régime d'alliance entre Dieu et les hommes, ce régime matrimonial, puisque l'image conjugale est employée précisément pour cette réalisation de l'alliance en Apocalypse 21. Il y a une grande dualité selon le régime de la justification, selon l'accès ou le mode d'accès à la justice devant Dieu, la justice devant Dieu étant simplement la possibilité de tenir devant lui, d'être agréé du juste juge. Comment, dans l'alliance, est-il possible à un homme d'être là au lieu d'être pulvérisé ou catapulté dans les ténèbres par la colère de Dieu contre tout ce qui n'est pas selon sa volonté? Comment l'homme peut-il tenir? Il y a deux façons concevables, deux et deux seulement. Je crois que ça, il faut l'affirmer là aussi avec une grande assurance biblique. Et le texte qui expose cela peut-être de la manière la plus claire et la plus dense à la fois se trouve dans l'Épître aux Galates au chapitre 3. Il y a le mode d'accès qui permet la vie devant Dieu ou le maintien de cette vie d'une manière que mérite le bénéficiaire. Le bénéficiaire agit de telle sorte que la vie lui est accordée ou renouvelée et qu'il la mérite. Ou bien il y a un autre moyen selon lequel la vie lui est donnée de façon imméritée, totalement imméritée, à cause de ce que Dieu fait pour lui et en quelque sorte à sa place. Il y a ces deux moyens seulement. Ou bien on peut tenir devant Dieu parce qu'on satisfait soi-même aux exigences, ou bien on tient devant Dieu parce que dans une générosité incroyable, il pourvoit lui-même et qu'il satisfait lui-même ce que nous sommes incapables, nous, de satisfaire. Alors ces deux principes se trouvent très bien exposés au chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Le premier principe, c'est le principe que de la loi ou des œuvres de la loi, comme l'explique l'apôtre au verset 12. Il dit « La loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » C'est une citation du livre du Lévitique. Il s'agit dans ces choses des commandements de Dieu, transmis par Moïse. « Celui qui mettra en pratique ces choses, celui qui fera ces choses, qui obéira à ces commandements, vivra par elle. » Il obtiendra la vie comme une récompense. Il méritera cette vie devant moi. Voilà le premier système, qui est le système de la loi, verset 12. Le deuxième système qui s'oppose, dit l'apôtre, c'est celui qui est défini par la parole d'Habacuc, le juste vivra par la foi. C'est au verset 11 qu'il donne cette citation, et dans tout le paragraphe, dans tout le développement du paragraphe, il oppose le régime de la loi à celui de la foi, ou de la grâce. Ce n'est pas le mot de grâce qu'il emploie en premier lieu dans ce paragraphe-ci, c'est plutôt celui de foi, mais dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, c'est celui de grâce qu'il met en valeur davantage, en disant par exemple, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Deux grands principes, celui qui est défini donc par le texte du Lévitique, Lévitique chapitre 18, verset 5, et puis celui qui est défini par le texte d'Habacuc, la loi d'une part, la grâce d'autre part. Incontestablement, la loi, Paul la lit de manière très étroite au ministère de Moïse et à l'alliance conclue au Sinaï. Cela apparaît au chapitre 4 de l'Épître aux Galates, par exemple, où il parle de deux alliances. Une alliance qui
correspond à la loi et qui est lié au mont Sinaï. Il prend les deux femmes dont Abraham a eu des enfants, Agar, la femme esclave, et Sarah, la femme libre, la mère d'Ismaël et la mère d'Isaac, et il dit, il y a là une allégorie, 4:24, car ces femmes sont les deux alliances, l'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants, c'est-à-dire au judaïsme, qui s'accroche à la loi de Moïse et au système de justification par la loi, au système selon lequel on espère obtenir la vie par les œuvres d'obéissance à la loi. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Alors Paul cite le prophète Ésaïe à propos de cette Jérusalem céleste, dont l'Église est comme la figure ou la colonie sur la terre. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, on ne peut pas douter que Paul établisse là une certaine relation entre l'alliance sinaïtique, l'alliance mosaïque, et puis le régime de loi. Le régime de la loi qui implique pour nous esclavage. Au chapitre 3, nous trouvons cette association entre loi et esclavage. Nous étions gardés prisonniers sous la loi, dit-il. Et il y aurait encore confirmation ailleurs, dans les épîtres de Paul, au chapitre 3 de la deuxième aux Corinthiens, avec le ministère de la mort, de la condamnation, relié à Moïse, comme nous l'avons déjà vu. Seulement, l'alliance de loi ne commence pas avec Moïse. C'est justement beaucoup plus compliqué. Elle commence déjà en Éden. Nous pouvons le percevoir, bien que le mot d'alliance ne soit pas prononcé dans le récit de la Genèse, par différentes approches. D'abord, il y a un verset dans le livre d'Osée, Osée chapitre 6, verset 7, qui littéralement traduit, énonce, « Ils ont comme Adam transgressé l'alliance ». Alors, si on traduit de cette manière littérale, qui je crois est la bonne, j'en discute dans mon livre, sur le début de la Genèse, alors cela signifie qu'Adam avait été mis dans une alliance. Une alliance qu'il a transgressée et une alliance qui était, nous allons le voir bien, une alliance de loi. Il y a le raisonnement de Paul dans Romains 1 et 2, Romains 2 en particulier, quand il explique que les païens qui n'ont pas la loi de Moïse se retrouvent finalement dans la même catégorie, au même point, parce qu'ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur, en vertu de leur création, de telle sorte qu'ils sont dans une situation semblable à celle des Juifs. Bien sûr, ils ont moins de clarté, alors chacun sera jugé selon le degré de clarté de la révélation qu'il a reçue, mais au fond, la situation est la même. La différence est de degré, et non pas radicalement d'essence. Mais s'il en est ainsi, alors, nous pouvons dire que la situation originelle, en Adam, des hommes, est déjà une situation semblable à celle des Juifs sous la loi de Moïse, et par conséquent qu'il y a déjà alliance de loi précédemment. Je crois que le même raisonnement, nous le retrouvons en Romains 5, bien qu'il soit encore plus difficile à saisir dans Romains 5 que dans les autres passages. On le perçoit vers la fin du développement de Romains 5, quand Paul dit « Et la loi a été ajoutée afin que la transgression abonde, pour faire apparaître plus clairement l'horreur du péché, la volonté de désobéissance des hommes. » Elle a joué un rôle d'amplificateur, cette loi de Moïse. Mais, fondamentalement, ce qu'elle implique était déjà présent auparavant. Ça, c'est la série d'approches qui ne partent pas de la Genèse elle-même, mais dans la Genèse, alors je dis que l'on peut trouver tous les éléments de l'Alliance. Les paroles de Dieu à Adam, d'après Genèse 2, sont des clauses d'Alliance. Il y a la générosité, la promesse, de tous les arbres du jardin tu mangeras, et puis il y a l'exigence du Seigneur à l'égard de sa créature, mais le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là tu mourras certainement. Et vous le voyez, la menace de mort correspond à ce que méritera l'homme. L'alliance est ici une alliance où le maintien dans la vie dépend de l'obéissance à Dieu, où elle a donc le caractère d'une alliance de loi.
Ce n'est pas bien sûr toute la loi de Moïse avec toutes ses prescriptions, mais c'est le même principe essentiel. Si l'homme obéit, il profite de tous les biens de Dieu. On commence par les biens de Dieu, par sa générosité. Si l'homme désobéit, il en supporte la sanction. Donc je crois qu'on doit dire que l'alliance de loi commence en Éden, commence à la création même de l'humanité. C'est une alliance qu'on pourrait dire d'ailleurs éminemment logique. C'est une alliance qui correspond à ce que on attend de la justice, du juste juge, qui récompense les actes bons et qui punit les actes mauvais. L'alliance de grâce, elle, celle qui permet de tenir devant Dieu grâce à d'une toute autre façon, par cadeau immérité de la part du Seigneur, elle est conclue en Jésus-Christ. Quoique là, on ne peut pas éviter non plus cette conclusion biblique, car c'est son sang qui est le sang de l'alliance, le seul qui permette de sortir de l'autre système et de donner à un homme accès auprès du Dieu Saint alors qu'il est lui-même pécheur. Il faut que le sang le purifie, il faut que son péché soit expié pour que l'homme puisse se présenter devant Dieu. Et le sang des taureaux et des boucs, nous dit l'Épître aux Hébreux, est absolument incapable d'effacer les péchés. Il ne peut le faire qu'en image, qu'en symbole, que pour une pureté rituelle extérieure. Mais en ce qui concerne le juste jugement de Dieu, le sang des taureaux et des boucs est incapable de faire l'expiation pour le péché des hommes. Seul le sang de Christ le peut. Il est la seule victime dans toute l'histoire qui puisse effectivement se substituer au pécheur et porter son péché. Donc s'il y a une autre alliance que l'alliance de loi quant au principe radical permettant de se tenir devant Dieu, elle ne peut être conclue qu'en Jésus-Christ, dont le sang est le sang de l'alliance. Et nous devons affirmer que puisqu'il n'y a aucun autre sang qui puisse expier, puisqu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels ils puissent être sauvés, avant comme après, s'il y a eu des hommes qui ont été sauvés, délivrés de leurs péchés, purifiés et qui ont reçu la vie éternelle, se tenant devant Dieu dans l'alliance de la co-appartenance avec lui, ils l'ont été par la foi en Jésus-Christ, grâce à l'effusion de son sang. C'est ce que nous voyons, je crois, clairement dans les épîtres de Paul, qui nous parle d'Abraham comme d'un homme qui a été justifié par la foi en vue de la venue de Jésus-Christ. Il a vu le jour de Jésus-Christ et s'est réjoui, dit Jésus lui-même dans l'évangile de Jean. Et David de même, lorsqu'il a écrit le psaume 32, nous dit l'Épître aux Romains chapitre 4, a connu ce que nous connaissons par la justification gratuite. Donc, l'accès à Dieu dans une alliance de réconciliation avec lui, gratuite, est possible que par Jésus-Christ, l'alliance de grâce est conclue avec lui. Alors, voyons où nous en sommes. Alliance de loi dès la création, alliance de grâce conclue en Jésus-Christ, le nouvel Adam. Entre les deux, je crois que nous avons des dispositions préparatoires à la venue de Jésus-Christ et d'un caractère nécessairement mixte et complexe entre l'alliance d'Éden, qui est une alliance purement de loi, pourrait-on dire. La loi étant elle-même un effet de la bonté de Dieu, d'ailleurs, étant juste, c'est pas un mot qu'il faut prendre péjorativement. L'alliance créationnelle qui pose le système de la loi, et puis l'alliance de grâce en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait entre les deux, c'était en prévision de la venue de Jésus-Christ pour le préparer. Mais comme Jésus-Christ n'était pas encore venu, cela a eu un caractère mixte, et du coup c'est plus difficile à analyser. Et je crois que c'est parce qu'on n'a pas perçu assez ce fait que bien des chrétiens évangéliques même se sont achoppés à certains éléments qui peuvent paraître contradictoires dans les textes. Parmi ces dispositions, d'ailleurs, la plus consistante, c'est celle que Moïse a transmise. Et c'est pourquoi elle prend le nom, dans plusieurs passages du Nouveau Testament, d'Ancienne Alliance. Parce que c'est celle qui a été organisée en grand, pourrait-on dire, développée. Dans ces alliances intermédiaires, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve d'abord une répétition du principe de loi. Le principe, disons, des œuvres. Dieu récompensera l'obéissance par la vie, mais attention, il faut une obéissance entière, ou Dieu châtiera par la mort la désobéissance. On trouve l'énoncé de ce principe dans ces dispositions intermédiaires, justement parce qu'elles sont entre les deux. Alors on la trouve dans Genèse 9 par exemple, à mon avis, mais on voit Agar qui correspond, d'après l'interprétation de Paul, à ce principe dans l'histoire d'Abraham, et on trouve surtout ce principe dans la loi de Moïse, Lévitique 18.5, celui qui fera ces choses vivra par elles. Le principe de la loi est énoncé par Paul en termes mosaïques, Lévitique 18, verset 5. Et en tant que répétition de ce principe de loi, les alliances intermédiaires, donc entre Éden et Jésus-Christ, avaient le caractère de pédagogue pour conduire à Christ, comme le montre Galates 3. Leur but dans le plan de Dieu, ce n'était pas de permettre aux hommes de s'en sortir par eux-mêmes en obéissant, car Dieu savait bien que ce n'est pas possible, que les hommes n'y arrivent pas. Une fois qu'ils ont décidé de se détourner de Dieu, ils sont prisonniers de leur propre orgueil, de leur propre mensonge. Et l'Épître aux Galates dit que tous les hommes qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, verset 10. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Nul n'est justifié devant Dieu par la loi. » Car Dieu ne se contente pas d'une obéissance moyenne. Il ne suffit pas que les bonnes œuvres soient un peu plus nombreuses que les mauvaises, sur les deux plateaux de la balance. Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est prescrit. Une seule mouche morte gâche tout le parfum du parfumeur, dit l'Ecclésiaste. Une seule œuvre mauvaise gâche tout et le rend nauséabond aux yeux de Dieu. Donc Dieu ne comptait pas du tout que par la répétition du principe édénique de la loi, l'homme s'en sorte par lui-même. S'il le répétait aux hommes, c'était pour leur prouver justement qu'ils ne pouvaient rien par eux-mêmes et les conduire à Jésus-Christ, leur seule espérance. C'est comme pédagogue pour conduire à Christ par le désespoir même, le désespoir d'eux-mêmes des hommes que cet aspect de loi devait fonctionner dans le plan de Dieu. C'est ce que les pharisiens en particulier n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas saisi dans toute sa rigueur l'exigence divine. Mais si on la saisit dans toute sa rigueur, on s'aperçoit que nul n'arrive à la respecter, et donc elle ne peut avoir dans le plan de Dieu que le sens de nous pousser plus loin. Il y a donc, premier élément du caractère mixte, cette répétition du principe de la loi, qui nous explique toutes les paroles de Paul, qui semblent viser la loi de Moïse, et qui parle de la loi, de l'esclavage, etc. Mais il y a aussi une annonce figurée de la grâce. Par avance, une annonce figurée de la grâce qui est faite dans ces dispositions intermédiaires. Ce n'est pas comme l'Alliance d'Éden, où la grâce n'avait pas, la grâce miséricordieuse, la grâce de réconciliation n'avait pas à être présentée, puisque l'homme n'avait pas encore péché. Mais dans ces dispositions que Dieu prend après la chute, et pour préparer la venue de Jésus-Christ, il annonce aussi sa grâce. Alors, c'est le symbolisme de l'arc-en-ciel, et puis il y a d'ailleurs aussi un sacrifice au moment de l'alliance avec Noé. C'est aussi les sacrifices dans la vie d'Abraham, et puis le fait que Dieu le considère juste, le compte pour juste, à cause de sa seule foi. Il y a aussi le très beau symbole de l'offrande demandée d'Abraham sur le mont Moria, lorsque Dieu lui demande d'offrir Isaac, et puis qu'au dernier moment, Dieu remplace Isaac, qu'il avait exigé, par une victime qu'il a lui-même apportée, cette leçon étant tirée expressément dans le texte. L'Éternel pourvoira. C'est l'Éternel qui pourvoit la victime. Qui, alors que c'est l'homme qui devrait la fournir, se substitue à l'homme pour se sacrifier, ou sacrifier celui qui l'envoie à sa place. Il y a une préfiguration de la grâce. Et puis alors, dans tout le système mosaïque, il y a tous les sacrifices. Les sacrifices sont une prédication de la grâce de Dieu, de l'autre système. Grâce à la mort d'une victime innocente à ma place, je vais pouvoir tenir devant Dieu. Le sang des taureaux et des boucs était incapable de rien faire par lui-même, mais Dieu a commandé de le répandre dans le système de l'Ancien Testament pour annoncer le sang de l'Alliance, le sang de Jésus-Christ qui lui ôte vraiment les péchés. Oui. Donc il y a une annonce figurée de la grâce, et le principe de la grâce est énoncé. J'ai lu l'Épître aux Galates, et dans l'Épître aux Galates, Paul cite pour le principe de la loi la parole du Lévitique, Et puis il cite pour le principe de la grâce ou de la foi la parole d'Habacuc, le juste vivra par la foi. Mais dans l'épître aux Romains, il y a un développement parallèle. Vous savez que l'épître aux Romains se développe de manière très parallèle à l'épître aux Galates écrite plus tôt. Et là, les deux citations que prend l'apôtre pour caractériser les deux modes d'accès à la justice, il les emprunte tous deux à Moïse. C'est très intéressant. Dans Romains 10, verset 5, nous je lis, « En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi, l'homme qui la mettra en pratique vivra par elle. » C'est la même citation de Lévitique 18 que dans l'Épître aux Galates. « Mais voici qu'on en parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ. Qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Paul va chercher d'autres paroles de l'Ancien Testament que celles d'Habacuc pour caractériser le régime de la foi. Et où les trouve-t-il ? Dans le Deutéronome, donc dans la loi de Moïse, chapitre 30. Il cite là le Deutéronome en expliquant quelque peu. Alors ça me paraît très très important parce que cela atteste le caractère mixte et complexe de l'alliance conclue par le moyen de Moïse. Il y a d'une part la répétition du principe de la loi, mais il y a aussi l'annonce du principe de la foi et de la grâce. Les deux sont comprises à la fois dans la loi de Moïse. Et c'est ce qui permettait à l'homme qui vivait à ce moment-là, désespérant de lui-même, parce qu'il se rendait compte qu'il était incapable d'obéir à tout ce que Dieu exigeait, c'est ce qui lui permettait de mettre par avance sa foi en Jésus-Christ, sans connaître précisément son nom, mais qui avait déjà une annonce de sa venue. C'est ce qui lui permettait de mettre d'avance sa foi en Jésus-Christ, et ainsi d'appartenir par avance à la nouvelle alliance. Il était pris dans l'alliance sinaïtique, mais de cette alliance qui avait un rôle préparatoire, il pouvait comme s'élancer dans une espérance pleine de foi vers la nouvelle alliance et en bénéficier déjà, connaître déjà la justification par la foi qui est par Jésus-Christ. C'est la situation complexe où il se trouvait. D'une part, soumis aux dispositions de l'époque, mais déjà joint à Christ pour profiter de son œuvre par avance, par une sorte d'anticipation. Cette annonce figurée, c'est le dernier point que je mentionne à propos des articulations entre les alliances qui doivent maintenant, j'espère, vous apparaître, incluait non seulement le système des sacrifices, mais aussi tout le régime de la théocratie. C'était un système extérieur que celui des sacrifices, et il impliquait aussi un peuple charnel choisi d'entre tous les peuples de la terre, des institutions politiques où Dieu serait comme figuré, etc. Et nous trouvons pour cette raison une correspondance entre les données qui concernent l'alliance mosaïque dans l'Ancien Testament et puis celles qui concernent la nouvelle alliance dans le Nouveau. Les versets d'Exode 19 que j'ai lu tout à l'heure à propos d'Israël comme propriété particulière de l'Éternel, eh bien ils sont repris pour l'Église, dans un sens bien sûr transposé, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. L'Israël est, comme dit Paul dans Galates 6, l'Israël de Dieu, et il hérite des titres qu'Exode 19 donnait, des titres d'alliance donnait à Israël. 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous avez une reprise des expressions clés d'Exode 19 attribuées à l'Église. Alors ce n'est plus une nation au sens littéral, puisque nous restons rattachés à des nations terrestres diverses. Nous qui sommes membres de l'Église, c'est une nation dans un sens transposé, dont la nation d'Israël était le type, la figure, selon ce principe de l'annonce figurée de la grâce. Parce que la grâce, c'est d'abord ce qui nous permet de tenir devant Dieu, mais elle a pour conséquence d'unir en un seul peuple, propriété particulière de Dieu, tous ceux qui sont réconciliés avec lui. Voilà, me semble-t-il, comment, bien sûr, à grands traits, on peut schématiser le rapport des diverses alliances dont il est question dans l'Écriture. Et je termine maintenant en soulignant que la présentation que je vous propose permet de voir à quel point au centre de tout se trouve Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Il n'est pas absent de la toute première alliance, car c'est lui le Verbe créateur en qui toutes choses ont été créées, et qui en tant que sagesse créatrice, d'après Proverbe 8, faisait déjà le lien entre Dieu et l'humanité. Mais dans cette première alliance, Dieu et l'homme distincts ne sont pas unis autrement que par le lien juridique de l'alliance. Dans la nouvelle alliance, alors, il est à la fois le contractant divin, le Dieu qui vient épouser son Église, et le chef de l'humanité nouvelle. Il est à la fois Dieu faisant alliance et Adam entrant dans cette alliance. Donc il est à ce moment-là le médiateur insurpassable, puisqu'en sa propre personne, il unit les deux contractants. J'aime à dire qu'il est le médiateur sans être intermédiaire. Ce n'est pas un être intermédiaire, puisqu'il est Dieu même et homme, parfaitement. Mais il ne l'est pas encore seulement par sa personne, en tant que Dieu et homme, il l'est par le sang de sa croix. Le sang de l'Alliance, qui est le sang de sa croix, lui permet de satisfaire parfaitement toutes les clauses de la loi. Ce qui veut dire qu'il assume, en quelque sorte, tout ce qui est reliquat de la première alliance. Le jour où tu mangeras de ce fruit, qui est la prétention d'autonomie, le péché même, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien cela, c'est Jésus à sa croix. Jésus crucifié, qui en règle tout le contentieux, qui en paie la dette. C'est lui qui supporte en sa personne le salaire du péché et qui satisfait cette loi. Cette loi donc est assumée par lui. Mais en même temps, il fonde par là le régime nouveau, le régime de la grâce, qui permet à un homme de tenir devant lui sans être juste par ses œuvres, qui permet à un homme purifié par le Seigneur d'être réconcilié avec lui, sans aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, je crois que nous pouvons discerner, grâce à cette présentation d'alliance, que nous avons tout pleinement en lui. Dieu a voulu qu'il soit en tout le premier, explique l'apôtre. Il est le premier comme notre créateur, mais il est le premier comme victorieux de la mort, comme médiateur de l'alliance insurpassable, où Dieu et les hommes, sans se mélanger, sont unis d'une manière indissoluble pour l'éternité. Voilà là. Une façon au moins de présenter le contenu de la Bible dans ses grandes articulations.